corps pour espérer stopper Omicron. Les livreurs à scooter, désormais interdits de ravitailler certains quartiers. À Kiev, la capitale ukrainienne, des engins de guerre russes exposés dans la rue comme des trophées. Il a fait son choix, mais il ne dira rien pour le moment. Emmanuel Macron sait qui sera le prochain Premier ministre. Nutri-Score et produits du terroir, les deux font plutôt bon ménage, selon une enquête de l'UFC Que Choisir.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui le réalisateur Claude Lelouch, sujet d'un documentaire tourné pour Vivre de Philippe Azoulay, qu'il a suivi pendant 7 ans.
France Inter.
En Chine, Laurence, le cauchemar continue pour certains habitants de Pékin et de Shanghai.
Oui, car la situation Covid s'est améliorée, le nombre de cas est en baisse significative, désormais aux alentours de 5000 nouveaux cas par jour, du mieux, mais pourtant, les autorités durcissent encore les restrictions, avec notamment une mesure qui inquiète beaucoup la population, l'interdiction des livreurs dans certains quartiers, ce qui va rendre encore plus difficile l'approvisionnement des résidences. C'est le reportage de notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
Depuis le début du confinement, les livreurs de Shanghai n'ont pas cessé de sillonner la ville. Grâce à eux, les habitants ont pu tant bien que mal remplir leurs frigos. Mais les autorités, engagées dans une lutte acharnée contre le Covid, s'attaquent désormais à toutes les sources possibles de contamination. Les livreurs qui vont de résidence en résidence se sont vus comme des vecteurs du virus. Et dans certains quartiers, la décision a donc été prise d'interdire leur activité. Un coup dur pour de nombreux habitants déjà confrontés à de grosses difficultés d'approvisionnement. Le durcissement nous a été confirmé ce matin par le centre d'appel du bureau de prévention de l'épidémie dans le district de Pudong Tsingchu.
Nous avons distribué le document aux résidents. Les achats groupés spontanés sont suspendus. Aucun article non essentiel n'est autorisé dans le district, et ce afin de réduire le nombre de livraisons. La mise en œuvre de ces consignes va maintenant dépendre de chaque comité de quartier.
Selon nos informations, certains comités de quartier appliquent la décision de manière très stricte, n'autorisant aucune livraison de nourriture. D'autres se montrent plus conciliants. Ces restrictions sur les livraisons sont effectives au moins jusqu'au 15 mai. En Chine, Sébastien Berriot, France Inter.
La réponse de l'Amérique à la parade militaire du 9 mai à Moscou. Tout un symbole. Joe Biden réactive un dispositif de la Seconde Guerre mondiale, pensé à l'époque pour résister à Adolf Hitler. Il s'agit d'un programme de pré-bail qui donne au président des États-Unis des pouvoirs étendus pour soutenir l'effort de guerre en Europe. Ce dispositif devrait accélérer les livraisons d'armes. Car sur le terrain, les combats s'intensifient dans le sud et l'est de l'Ukraine. Des missiles ont également visé la région d'Odessa. 7 frappes, 1 mort, 5 blessés. Le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite surprise hier dans cette grande ville du Sud, a même été obligé de se mettre à l'abri. Une guerre qui se mesure aussi sur le plan de la communication. Les Ukrainiens commencent à rassembler de nombreux objets témoins de ce conflit qu'ils subissent depuis plus de 2 mois maintenant. Des trophées, parfois directement exposés dans la rue. C'est le reportage à Kiev de nos envoyés spéciaux Agathe Mahué et Arthur Gerbeau.
C'est une manœuvre peu ordinaire. Ce camion grue qui dépose sur le trottoir un tank et un blindé de l'armée russe, tous deux calcinés. Événement sur cette petite avenue arborée de Kiev, habituellement paisible. Grigory a 13 ans, il est tout excité.
C'est trop cool, il se passe quelque chose d'important dans ma rue. Ce sont les engins de l'ennemi qu'on expose. Il y a des chars, des blindés. Oh, je voudrais bien monter dessus.
Photo souvenir devant ces trophées de guerre pour beaucoup de passant. Ici, un petit garçon grimpe et prend la pose sur la dérive d'un avion de combat russe abattu le 2 mars dernier. Ça permet de toucher du doigt les exploits de notre armée ukrainienne, s'enthousiasme Vlad. Certains de ces trophées sont exposés là depuis déjà plusieurs jours. La plupart ont été collectés autour de l'aérodrome de Rostomel, tout près de Boutcha.
C'est vraiment une preuve de ce qu'a fait l'armée russe sur notre sol.
Andrei est le chef d'orchestre de cette installation provisoire.
Et c'est important d'avoir ces engins-là sous nos yeux, en pleine ville, pour les citadins qui n'ont jamais vu la guerre. Et parce qu'on voit bien que certains n'y croient toujours pas.
À terme, cette collection naissante rejoindra le Musée national de l'histoire de l'Ukraine.
Agathe Mahué et Arthur Gerbeau. Une victoire écrasante, le clan Marcos réinstallé à la tête du pouvoir aux Philippines. 36 ans après avoir vu son père chassé par la révolte populaire, Ferdinand Marcos Jr., le fils du défunt dictateur, est élu haut la main président. La politique en France avec Emmanuel Macron qui entretient le suspense. L'Allemagne, c'était son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection et à cette occasion, lors de la conférence de presse à Berlin, le chef de l'État a assuré savoir qu'il allait nommer Premier ministre, sans donner son nom évidemment. Simon Le Baron, envoyé spécial de France Inter à Berlin.
Question posée en conférence de presse. Savez-vous qui sera votre prochain Premier ministre ?
Alors, oui.
Emmanuel Macron hésite ou fait mine d'hésiter.
Mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
Mais peut-il ignorer qu'il relance ainsi la machine à spéculer ? Par cette réponse, il sait qu'il se remet lui-même au centre de l'attention, lassé peut-être de voir les projecteurs braqués sur la gauche et Jean-Luc Mélenchon. Il répond aussi à ceux qui doutent de sa capacité à trouver le mouton à cinq pattes, écologique, social et productif. Et puis, il cherche à prouver que non, il ne passe pas tout son temps sur le remaniement et les législatives, alors qu'il n'est presque pas sorti de son bureau la semaine dernière. Lui qui assure toujours ne pas vouloir parler de politique nationale lorsqu'il est à l'étranger, ne s'est pas privé cette fois-ci de reprendre la main sur l'agenda médiatique, au moins jusqu'à la fin de la semaine, vendredi, minuit, fin officielle de son premier mandat et début du compte à rebours pour Jean Castex et son gouvernement.
Simon Le Baron, 28 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, cette quatrième affaire devant la justice française, l'ex-préfet rwandais Laurent Bussy-Baruta a commencé à comparaître devant les assises de Paris pour sa participation présumée à l'extermination des Tutsis dans la région de Gikongoro en 1994. L'homme de 78 ans est arrivé en chaise roulante, apparemment très diminué. Ses avocats qui ont décliné notre demande d'interview ont tenté de faire annuler toute la procédure, ce que les jurés ont réfuté. Après 1h30 délibérée, Manuel Leclerc.
L'un des trois avocats de la défense a mis en avant ses témoins à décharge qui sont morts avant de pouvoir témoigner à la barre en faveur de Laurent Bussy-Baruta parce qu'il aura fallu 2 décennies pour en arriver à ce procès. Un argument qui a choqué Daphrosa Gauthier qui a fondé avec son mari le collectif des parties civiles pour le Rwanda.
La défense se plaignait des délais, mais nous on se plaint exactement de la même chose. Franchement, moi j'aurais bien aimé voir un préfet bien clinquant pour affronter son procès. C'est une région qui pèse 100 000 morts, c'est une grande préfecture et c'était la mienne. Une très très grande partie de ma famille a péri dans cette préfecture.
Parmi les témoins que la défense tenait à tout prix à faire venir pour ce procès, il y aurait eu l'ancienne directrice de l'ONG Caritas, une Française, Madeleine Raffin, que connaissait bien Alain Gauthier.
Madeleine Raffin, je l'ai connue en 1970, on était prof dans le même établissement scolaire. Je découvrais le Rwanda, on était collègues, on s'entendait bien. Après, bon, elle a tourné kazakh et elle s'est mise du côté, je dirais, des génocidaires.
Comme les trois premiers procès qui se sont tenus en France sur le génocide rwandais, plusieurs dizaines de témoins à charge et à décharge sont malgré tout attendus à la barre d'ici le verdict, prévu normalement mi-juillet.
Emmanuel Leclerc, c'est une bataille qui se joue à l'échelle européenne. Bruxelles doit trouver d'ici à la fin de l'année un système d'étiquetage nutritionnel des aliments qui sera valable et obligatoire dans les 27 pays de l'Union. La France, elle, rappelons-le, a choisi le Nutri-Score et ses lettres de A en vert à E en rouge. Et bien, c'est un système de notation dénoncé par certains producteurs de produits traditionnels. Mais une enquête de l'UFC Que Choisir, publiée ce matin, tente de démontrer à Agnès Soubiran que nos produits du terroir ne sont finalement pas si mal noté que ça.
310 produits passés à la loupe dans 14 régions, de la saucisse de Morteau à l'huile de noix en passant par le Kouign-Amann. Résultat, 62% récoltent une note entre A et C. Et certains plats sont même particulièrement mis en avant pour leur qualité nutritionnelle. Olivier Andraud, responsable alimentation à l'UFC Que Choisir.
On a bien sûr des fruits et des légumes hein, tels que l'endive du Nord ou bien l'endive verte du puits AOP, appellation d'origine protégée. Mais on a aussi des plats traditionnels tels que le hauchepot flamand, la potée auvergnate, le fameux cassoulet de Castelnaudary, et puis plein de viande et de volailles qui bénéficient de labels rouges ou d'indications officielles.
Les rillettes de Tours, les saucisses Knack d'Alsace ou le Roquefort récoltent de leur côté un score D ou E. Sébastien Vignette est le secrétaire général de la Confédération Générale de Roquefort. Il estime, lui, que certains fromages devraient échapper au Nutri-Score.
On est les héritiers de recettes ancestrales qui ne peuvent être modifiées. Et vous comprendrez bien qu'ici, l'objectif de reformulation de la recette n'a évidemment aucun sens, a fortiori si c'est pour mettre des additifs pour avoir une bonne note.
La Commission européenne a donc encore plusieurs mois pour trouver le bon système d'information des consommateurs, alors que l'Organisation mondiale de la santé dénonce une épidémie de surpoids et d'obésité en Europe.
Agnès Soubiran. Andy Warhol, plus cher que Picasso, le portrait de Marilyn Monroe bat aux enchères le record des femmes d'Alger. Et qui ne connaît pas ce tableau aux couleurs saturées, réalisé 2 ans après la mort de l'actrice. Ce tableau de Marilyn s'est envolé chez Christie's en 4 minutes pour 195 millions de dollars. C'est celui sur fond bleu pâle, le même bleu que son fard à paupières. On ne sait pas à qui a été vendu ce tableau de Warhol, mais l'argent récupéré par le vendeur, la Fondation Zurich Wasserman, ira à un programme de santé et d'éducation pour les enfants.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique est à suivre. Thomas Legrand.